Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nouvelle semaine de bourse, nouvelle semaine qui pourrait être encore une fois compliquée. Alors bon, pour l'instant, ça va bien, les futurs sont en hausse. On a l'air de digérer un petit peu tout ce qui s'est passé, digérer surtout ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies durant le week-end, et digérer les chiffres de l'emploi de la semaine dernière qui posent quelques questions à nouveau et qui vont certainement ramener un petit peu de l'histoire de la Fed sur le tapis. Que vont-ils faire? Quid des taux et comment le tapering? Bref, en gros, on repart un petit peu avec les mêmes histoires qu'on avait la semaine dernière. On n'en sait toujours pas plus au niveau du variant Omicron. Donc on risque d'être encore dans une semaine bien instable. Et en plus, cette fois, il y a juste que dalle au niveau chiffre économique. Donc il va falloir un peu reprendre le menu de la semaine dernière, le réchauffer, le retravailler pour faire un truc relativement potable, en espérant que ça nous attire pas trop d'ennuis, en tout cas durant les jours qui viennent. Donc les sujets du jour, c'est quoi? Il n'y a pas forcément de sujet du jour. On revient un petit peu sur ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Alors tout d'abord, les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi étaient dégueulasses, vraiment en dessous des attentes. On attendait plus de 570 000 créations d'emplois, ça sort à 200 000 et des poussières. Donc grosse déception de nouveau du côté des chiffres de l'emploi. On se pose des questions sur la croissance. Quid de la croissance? Est-ce qu'on est en train de ralentir? Mais que se passe-t-il? Enfin bref, tout le monde se pose des questions. Ce qu'on peut constater, c'est qu'encore une fois, les prévisions étaient complètement à côté de la plaque, mais bien, hein, pas un tout petit peu. Donc forcément, on s'interroge. On s'interroge parce qu'on est en plein milieu d'un process où finalement, la Fed, ou en tout cas la Fed et son patron, sont en train de passer du côté au quiche de la force. Alors avant, ils étaient plutôt défensifs, c'est-à-dire que je rappelle quand même que les dovish, c'est ceux qui sont plutôt pour des taux bas, voire des taux à zéro, et les au quiche, c'est ceux qui sont pour plutôt anticiper et augmenter les taux plus vite que plus tard. Donc du coup, on est un peu en train de basculer de ce côté-là, parce que la Fed voit qu'il y a de l'inflation, que l'inflation n'est plus transitoire, et qu'ils sont stressés, parce que finalement, l'économie sera en train de démarrer un petit peu trop vite, et si elle démarre un petit peu trop vite, eh ben il faut pas se faire prendre de vitesse, parce que sinon, si on monte les taux trop tard, eh bien c'est trop tard, tout simplement. Et donc du coup, aujourd'hui, on est en train de se dire, alors oui, alors tout va mal, tout remonte trop vite, il va falloir monter les taux, et c'est pas bon quand les taux ils montent, les actions n'aiment pas quand les taux montent. Alors je fais juste une parenthèse, alors, en général, quand les taux commencent à monter, c'est vrai que le marché actions n'aime pas, mais sur le moyen long terme, généralement, il y a un petit hiccup à la baisse, et puis après, ça repart et ça monte, parce que quand les taux montent, ça veut aussi dire que l'économie va super bien. Donc généralement, après, les marchés actions recollent au peloton. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, à très court terme, et comme on a une vision à super court terme, eh bien c'est très très difficile. Et c'est très stressant pour nous. Donc, nous stressons sur le fait que la Fed pourrait se trouver dans une situation où elle est obligée de monter les taux, en tout cas changer sa politique monétaire, essayer de ralentir cette inflation. Et de l'autre côté, on a un chiffre économique qui, excusez-moi du terme, est dégueulasse. Donc, tout d'un coup, on se dit, mais alors, comment elle va faire la Fed? Comment elle va faire la Fed puisqu'elle doit ralentir une économie, mais qu'on a des chiffres de l'emploi qui sont pas toujours très très bons et qui montrent que l'économie, bah, elle est pas non plus en train de carburer à 250 à l'heure pour l'instant. Donc, on s'interroge. Et donc, on n'a pas la réponse, comme d'habitude, et on se pose des questions. Résultat, la fin de semaine dernière aura été un petit peu secouée, encore une fois, sur les marchés. On notera que les indices principaux terminent à des niveaux qu'on aimerait bien qu'ils aient pas plus bas. Alors, si on regarde la photo long terme, comme on le voit sur le S&P 500, ça va, finalement, si on se prend un peu de recul, cette petite correction, c'est que dalle, c'est pas très important. Après, si on regarde d'autres indices, ben on voit qu'on finit quand même très bas. Et puis, c'est pas super rassurant. Et on aimerait bien qu'à un moment donné, on ait un vrai rebond et pas un truc asthmatique comme on a eu la semaine dernière. Par contre, il faut juste noter une chose. Regardez le graphique du SOX. Le SOX, pour l'instant, il ne baisse pas. Ce truc, c'est incroyable. C'est juste du béton armé. Ça ne veut pas baisser. Alors, on dit toujours, je l'ai déjà dit 1533 fois dans ce Morning Bull Live, on dit toujours que quand le SOX va, tout va. Eh bien, pour l'instant, c'est au moins une bonne indication, c'est que les semi-conducteurs, l'indice des semi-conducteurs et la thématique des semi-conducteurs a l'air de continuer à aller dans la bonne direction. C'est vrai, puisque tout le monde ne parle que du métaverse et tout le monde ne parle que du fait que, de toute façon, c'est la solution finale. Donc, il faut absolument avoir certains titres des semi-conducteurs pour jouer la thématique des métaverses. Probablement que c'est quelque chose qui aide un tout petit peu pour l'instant. Et même si Peut-être que c'est encore un tout petit peu tôt, mais peu importe, en tout cas de ce côté-là, ça tient. Donc voilà un petit peu les choses avec lesquelles on va devoir jouer cette semaine. Au niveau de la Fed, il va falloir interpréter, essayer de faire des jeux de rôle et se positionner, se mettre dans la tête de Monsieur Powell pour voir qu'est-ce qu'il pourrait bien nous faire, qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire, comment est-ce que les choses pourraient aller, dans quelle direction est-ce que ça pourrait aller. Pour l'instant, on n'en sait foutrement rien, on est toujours un petit peu dans le brouillard, on essaie toujours de trouver nos théories, de savoir est-ce qu'il faut racheter, est-ce qu'on va vraiment avoir un Christmas rally. Alors aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les médias du week-end, eh bien les banques d'affaires rivalisent de gros titres pour dire « oui, c'est l'occasion d'une vie d'avoir le super, de profiter maintenant d'acheter pour la fin du Christmas rally », et d'autres disent « ouais, c'est foutu, laisse tomber, de toute façon, on est déjà pratiquement mi-décembre, qu'est-ce qu'on va encore faire monter les marchés, il n'y a plus d'espoir, Berk c'est terminé, pas de Christmas rally cette année ». Donc la réponse est 50-50, on n'en sait foutrement rien. L'autre sujet bien sûr, et eh bien c'est encore notre ami, le variant Omicron, puisque là aussi alors on avance bien, hein, parce qu'on sait toujours pas plus qu'avant. En tous les cas, quand on écoute un petit peu les discours des uns et des autres, eh bien on a l'impression qu'on n'en sait rien, on ne sait pas s'il est vraiment dangereux, on ne sait pas si c'est un vrai problème, on ne sait pas si par hasard ça pourrait être une vraie solution. Bref, dans le doute, on continue à resserrer des boulons un peu partout dans le monde. Donc, vous connaissez l'histoire, on va pas revenir là-dessus parce que franchement, j'en ai ras-le-bol de parler Covid, machin, c'est juste une prise de tête monumentale. On ne parle plus que de ça. Il y en a plein, enfin bref, il y en a ras-le-bol. Donc du coup, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est encore un autre stress, puisqu'on se dit « oui, mais alors si jamais il est vraiment monstrueux, ce virus, eh bien il va encore ralentir l'économie ». Alors est-ce que pour l'instant, c'est des gouvernements qui la ralentissent en étant trop prudents ? On n'en sait rien, mais en tout cas, on peut se poser des questions sur la suite des événements. Quoi qu'il en soit, eh bien ça reste un truc qui va un petit peu nous préoccuper ces prochains temps, quid du variant Omicron. En tout cas, pour l'instant, quand on regarde ceux qui ont été contaminés, il y a beaucoup de contaminations, puisqu'on sait bien qu'il est très... La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est très virulent, ce truc. Mais par contre, les gens qui sont contaminés ont l'air de tous, plus ou moins, bien s'en sortir pour ce qu'on voit et pour ce qu'on lit. Donc ça, potentiellement, ce serait une bonne nouvelle. Donc, à faire, à suivre attentivement là-dessus. La tôle du week-end, eh bien, c'est les crypto-monnaies. La capitalisation boursière des crypto-monnaies s'est littéralement effondrée ce week-end. Donc, l'autre jour, quand le Bitcoin était à 69 000 $, la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies était de 3 000 milliards $. Et ce matin, elle est à 2 300 milliards $. Donc, une belle claque dans la gueule, surtout que ça s'est passé la plupart entre samedi après-midi et dimanche matin, donc tout le monde est vraiment concentré sur ce genre de choses, et donc du coup on s'est pris une baffe colossale, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a absolument rien. Quand vous cherchez des informations pour justifier la baisse des crypto-monnaies, alors de nouveau je ne suis pas un expert, et j'imagine qu'en dessous dans les commentaires de cette vidéo je vais me faire allumer parce que certains en savent pourquoi ça a baissé, moi je ne sais pas. Ce que je trouve, c'est que c'est juste un effet. Il y a zéro news. C'est intéressant de voir les articles ce matin où on explique pourquoi ça baisse. Je vais y revenir tout de suite. Mais pour l'instant, il y a zéro news. Le Bitcoin s'est pris 22% dans les dents, mais on n'en sait rien. Et il y a une montagne de traders qui étaient en levier qui se sont fait nettoyer, propre en ordre, encore une fois. Alors, est-ce que c'est l'opportunité? Ils ont mis la pression dessus et que c'est maintenant qu'il faut racheter parce qu'on va aller à 100 000 $ dans 3 semaines? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé comme bain de sang ce week-end sur les cryptos. Alors ce matin, je me suis levé super tôt et j'ai cherché des arguments, j'ai cherché des articles, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien un truc quelque part qui doit être dit. Alors c'est intéressant, là je suis tombé sur un article ce matin, on disait ah oui alors le Bitcoin il a baissé parce que le patron de la Fed, Jerome Powell, a changé son fusil d'épaule parce qu'on a des craintes sur le variant Omicron. Et incroyable, le Bitcoin tout d'un coup il est devenu aussi sensible aux nouvelles macroéconomiques que le reste du marché, donc aussi boring, aussi ennuyant que le reste du marché. Comment est-ce possible? Le Bitcoin se serait-il transformé? Les crypto-monnaies deviendraient-ils normales? Rentrer dans un carcan standard de la finance mondiale? On peut pas croire ce genre de choses. Donc, toujours est-il, quand c'est ce qui s'est passé hier et les gens ont repris les mêmes arguments qui ont fait bouger le marché durant toute la semaine, eh bien, c'est ce qui aurait, au conditionnel, déclencher la baisse du Bitcoin ce week-end. Comme quoi, ils ont mis du temps à processer l'information, visiblement. Enfin, quoi qu'il en soit, on s'est pris une taule sur les crypto-monnaies. Tout le monde se pose la question, alors maintenant, quid, opportunité d'une vie ou simplement fin du monde? Eh bien, bien évidemment, comme d'habitude, je n'en sais rien du tout, mais c'est vrai qu'en tout cas, il était intéressant de voir la vitesse à laquelle ça a été, ça s'est fait. Et on peut aussi se poser des questions s'il n'y a pas peut-être deux, trois gros acteurs qui ont été cherchés à nettoyer les spéculateurs qui bossent avec des leviers de 10, 15, 20 ou plus. La question du jour, alors là, j'ai envie de dire, ça a été multiplié par 4 ou 5 parce que j'ai reçu plusieurs fois la même question, ça parle du délisting des titres chinois. Alors évidemment, j'en ai parlé la semaine dernière et on en parle encore beaucoup dans les médias. Il semblerait que le gouvernement chinois soit en train de mettre la pression sur les sociétés chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Et donc du coup, les gens qui ont des titres chinois aux États-Unis se posent légitimement la question, mais qu'est-ce que je vais faire si demain c'est délisté? Que se passe-t-il? Alors, c'est toujours difficile de donner des réponses avec aussi peu de recul par rapport à l'information, mais il semblerait en tous les cas que du moment où vous avez une boîte, par exemple Didi l'a fait la semaine dernière, Didi a annoncé son delisting, pour l'instant elle traite encore, il n'y a pas de date qui a été annoncée, en tout cas j'ai rien vu pour l'instant, mais tant qu'elle traite, vous pouvez traiter. J'ai envie de dire, quand vous rentrez dans ce genre de situation et que vous entendez que la boîte va être délistée, moi dans un premier temps je vendrai ma position et je regarderai pour voir comment ça évolue quand on aura vraiment des informations. Tant que vous pouvez sortir encore, sortez. Après la deuxième chose, en général, comment ça se passe aux États-Unis quand une société étrangère est délistée? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle est retirée des plateformes standards, donc du Nasdaq, des grandes sociétés, des gros exchanges américains où vous pouvez les traiter. Ça a une conséquence, c'est que ça fait disparaître la liquidité. C'est-à-dire que tout d'un coup, si vous êtes coté sur le Nasdaq, comme Alibaba aujourd'hui, eh bien, vous avez des centaines de market makers américains qui viennent faire le marché, qui viennent mettre des offres et des demandes. Et si vous retirez Alibaba de cette plateforme-là, elle va toujours se traiter ce qu'on appelle over the counter, donc en dehors du marché régulé. Mais par contre, alors, la liquidité, elle va se retrouver à pas grand-chose. Et donc là, ça peut poser pas mal de problèmes. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est toujours linkée indirectement avec son pendant chinois. C'est-à-dire que si Alibaba prend 40% en Chine, même s'il y a peu de liquidités aux États-Unis sur ces nouveaux marchés, eh bien, sur ces over-the-counter markets, ces marchés OTC, eh bien, elle va quand même monter derrière. Par contre, c'est vrai que ce sera beaucoup plus difficile à traiter en termes de... Si vous voulez faire du trading dedans, c'est plus compliqué. Donc voilà, normalement, on verra ça au fur et à mesure, mais en tous les cas, vous avez une certitude, c'est que vous n'avez pas non plus à craindre que du jour au lendemain, vos positions chinoises disparaissent. Par contre, ne soient plus jamais traitables sur vos comptes. Par contre, ce qu'il faut surtout craindre, c'est que psychologiquement, effectivement, quand certaines boîtes sont délistées, vous allez avoir naturellement des gens qui vont sortir parce que eux ont besoin de cette liquidité derrière et ça pose quand même quelques menus problèmes de ce côté-là. Donc rien de catastrophique dans l'immédiat, on verra au fur et à mesure. L'information que je donne aujourd'hui, elle est à prendre avec des guillemets et au conditionnel parce que ça peut changer et il peut y avoir des réglementations différentes. Mais en tous les cas, normalement, ça continue à traiter avec une baisse de la liquidité parce qu'elle est retirée des plateformes standards. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en ce lundi matin glacial. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura très peu d'informations macroéconomiques cette semaine. On aura des GDP à droite à gauche, des ZEW en Allemagne, mais rien de transcendantal. Autant on a eu des dizaines de banquiers centraux qui ont parlé la semaine dernière aux États-Unis. Cette semaine, ils ne parleront pas, parce que la semaine prochaine, il y aura le meeting de la Fed. Donc, en général, ils se la ferment juste un peu avant. Par contre, on aura Madame Lagarde, qui, elle, ne fait pas partie de la Fed, mais de la BCE, qui parlera plusieurs fois cette semaine, parce que des fois, on comprend pas bien la première fois. Donc, du coup, elle sera là je crois, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, attendez-vous à 2-3 informations. C'est pas elle qui fait bouger les marchés d'habitude, mais en tous les cas, ça fera un truc de plus à surveiller. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que ça risque d'être relativement calme. Le pétrole est en train de remonter un petit peu. L'or est toujours dans le coma. Le bitcoin ne sait plus ce qu'il doit faire. Et puis, pour l'instant, les futurs sont orientés légèrement à la baisse de l'ordre de 0,6-0,7%, ce qui est quand même pas mal par rapport à ce qu'on voit d'habitude. On sent qu'on a envie de tenter encore une fois de dire que peut-être il y a encore de l'espoir pour voir le Christmas Rally. Autrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. On a passé les 11 800 et des poussières. Là, on s'approche dangereusement des 12 000. Si on pouvait les atteindre avant Noël, ce serait une super bonne nouvelle. Enfin, pour moi, ça ferait un cadeau. Et puis, autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez surtout pas de revenir demain parce que je serai de nouveau là, comme d'habitude. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.